Il est 8h20 sur France Culture et la crise financière, donc à la une de l'émission ce matin, un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 50 ans, peut-être même une fois par siècle. Voilà ce que déclarait donc l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan. Vous l'entendiez dans la revue de presse de Cécile de Kervas-Douai, c'est ce qu'il annonçait après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Le siège de la banque sur la 7e avenue à New York est déjà à vendre et une banqueroute qui pose de nombreuses questions. Comment répondre à la crise? Tous les plans de sauvetage imaginés ces dernières semaines ont échoué. Quelles conséquences aussi de cette faillite? Analyse avec notre invité, l'économiste Eli Cohen. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue. Lehman Brothers, c'était une banque qui disposait fin mai dernier, c'est donc il n'y a pas si longtemps, de 640 milliards de dollars d'actifs. Comment a-t-elle pu faire faillite hier?
Oh, c'est très simple. Il y a à peine une semaine, lorsqu'on évaluait les engagements de l'entreprise, on estimait que sa perte potentielle était de 30 milliards. Le chiffre qui a été donné tout à l'heure par Mme Lubotchinsky a évolué vers 80 milliards de dollars en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ces banques essentiellement vendent des produits financiers et de la protection financière. À partir du moment où le doute sur leur solvabilité s'installe, tous ceux qui sont en relation d'affaires avec cette banque cherchent à dénouer en catastrophe leur position. Et donc, des actifs qui étaient parfaitement sains deviennent du jour au lendemain des actifs risqués. Et lorsque la menace de la faillite se précise, des actifs risqués ne valent plus rien du tout. Si vous voulez, quand tout le monde veut vendre et que personne ne veut acheter, le meilleur actif du monde ne vaut soudain plus rien. Et donc, ce qui faisait que Lehman tenait, c'était la garantie implicite que la Banque fédérale et que le gouvernement américain interviendraient. C'était le fameux syndrome du « too big to fail », trop gros pour tomber. Et donc, ce qui faisait que les grandes banques d'affaires américaines, malgré tout, restaient dans les affaires, c'était cette garantie du gouvernement américain. Or, la semaine dernière, M. Paulson, quand il a fait le fameux sauvetage de Fannie Mae et de Freddie Mac, a dit une phrase qui a été peu entendue. Il a dit que l'argent du contribuable américain n'était pas mobilisable à tous les coups. C'était un signal qui était envoyé, c'est-à-dire qu'après avoir organisé des sauvetages sous le couvert de la puissance publique américaine, le message qui était envoyé, c'est que la prochaine fois, ce serait au tour des banques de faire elles-mêmes leur propre travail de sauvetage. Et au fond, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que le patron de la Banque fédérale de New York, Tim Geithner, a réuni les principaux banquiers de la place et leur a dit « il n'y aura pas d'argent public cette fois. Oui. Il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous pour sauver Lehman ». Et donc ce qui s'est passé pendant ce week-end, c'est que les 10 plus grosses banques américaines ont dit « écoutez, on est prêt à mettre au pot 100 milliards de dollars, 70 à 100 milliards de dollars ». Pour dénouer les positions de Lehman, ça devrait suffire à garantir le sauvetage de Lehman. Et puis en même temps, Lehman doit chercher quelqu'un pour le reprendre. Et pendant le week-end, un repreneur s'est manifesté, c'était Barclays. Simplement, pour que le rachat de Lehman par Barclays puisse se faire, il faut malgré tout quelques formalités, comme par exemple consulter les actionnaires. Et ce n'était pas techniquement possible pendant le week-end. Et donc, le gouvernement américain a pris le risque de laisser Lehman faire faillite en demandant à Wall Street de gérer elle-même cette faillite.
Est-ce que vous comprenez la réaction du gouvernement américain, Eli Cohen? Il a sauvé Bear Stearns, il a sauvé Freddie Mac et Fannie Mae, vous le rappeliez à l'instant, des banques très importantes et puis également ces fonds qui gèrent le crédit immobilier aux États-Unis, les a placés sous tutelle du Trésor américain. Il y a sans doute à venir aussi des actions pour sauver un certain nombre de très grandes compagnies d'assurance aux États-Unis. Pourquoi avoir laissé s'effondrer Lehman Brothers?
En fait, c'est la séquence qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Lorsque Bear Stearns a été en difficulté, le gouvernement américain, a priori, n'avait pas à intervenir. Et même la banque centrale américaine n'avait pas à intervenir. Bear Stearns, c'est ce qu'on appelle un broker-dealer, c'est une banque d'investissement. Et il n'est pas dans la responsabilité de la banque centrale américaine d'apporter des financements à une banque d'investissement. Et donc, en gros, la banque centrale a violé son propre mandat en se portant au secours de cette banque en difficulté. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le pouvoir d'exception en économie. Et donc, nous avons été tous formidablement admiratifs parce qu'on a vu que la Banque centrale américaine était capable de violer son propre mandat pour éviter quoi ? La crise systémique qui terrorise tout le monde, c'est-à-dire le fameux effet de domino. Donc, le gouvernement américain, au plus fort de la crise des subprimes, s'est dit, il faut que j'envoie un message au marché qui est que même une banque d'investissement qui n'est pas couverte par l'autorité de la Banque fédérale peut être sauvée pour calmer le jeu. Bon, une fois que ça a été fait, le problème, vous voyez tout de suite comment il se dessine, c'est que si on sauve Bear Stearns, qui ne relève pas de la compétence de la Banque centrale, est-ce que ça veut dire que la Banque centrale va sauver toutes les banques en difficulté? Or, il faut savoir qu'au moment où on parle, toutes les semaines, des banques font faillite aux États-Unis. Donc, dans quel cas doit-on empêcher la faillite et dans quel cas ne doit-on pas empêcher la faillite? Alors, après Bear Stearns, il y a eu l'épisode Fannie Mae et Freddie Mac. Le gouvernement américain ne voulait pas nationaliser Fannie Mae et Freddie Mac. Et tout le plan de Paulson, ça a été d'apporter toute une série de garanties, de crédits nouveaux, de garanties d'apport en capital pour que il n'y ait pas à nationaliser Fannie Mae et Freddie Mac. Simplement, toutes les mesures prises par Paulson n'ont pas rencontré l'approbation des marchés. Et donc, on s'est trouvé confronté à un risque simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut le savoir, Fannie Mae et Freddie Mac garantissent un crédit immobilier sur deux aux États-Unis. Leur encours est de 5 400 milliards de dollars, c'est-à-dire un tiers du PIB américain. Là, vous comprenez bien, le gouvernement américain ne peut pas laisser faire défaut parce que c'est le marché immobilier qui s'effondre et derrière, ce sont les ménages américains qui se ruinent parce qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs obligations. Et puis surtout, plus aucun crédit immobilier nouveau ne peut être produit. Donc là, face à l'ampleur du risque, le gouvernement américain a fait ce qui lui arrachait les tripes, c'est-à-dire nationaliser purement et simplement Fannie Mae et Freddie Mac. Et puis alors, à ce moment-là, le gouvernement a dit, écoutez, la prochaine fois, il faudra que les banquiers fassent leur métier eux-mêmes. Il n'est plus question de mettre de l'argent public. Et donc, le paradoxe, vous avez raison, c'est que Lehman, qui à tous égards est une bien meilleure banque que Bear Stearns, qui est bien mieux gérée, qui a des actifs de bien meilleure qualité, est abandonnée, tout simplement parce que le soutien du gouvernement américain ne peut pas être illimité.
Pourquoi ce qui n'a pas été possible pour Lehman Brothers, ça a été possible pour une autre très grande banque américaine, Merrill Lynch, qui a été rachetée par Bank of America. Ça donne lieu à l'une des plus grandes institutions financières au monde. Elle vient de voir le jour en pleine tempête financière. Pourquoi, tout simplement, ça a été possible pour cette banque et pas pour l'autre?
Oh, c'est très simple. Merrill Lynch, comme vous le dites, est une très, très, très belle banque qui a en particulier des activités de détail qui font que Merrill Lynch est connue de la plupart des ménages américains. La plupart des ménages américains ont des comptes et placent leur argent chez Merrill Lynch. Donc, ce qui s'est passé, c'est que John Tain, le patron de Merrill Lynch, qui est plus intelligent, plus malin apparemment que certains de ses collègues, a vu la suite du scénario. C'est-à-dire qu'il a vu, après la faillite de Bear Stearns, après la faillite de Lehman, il a vu que le prochain sur la liste, c'était Merrill Lynch. Et il a sans doute anticipé, lui qui connaît bien Hank Paulson, qui est le secrétaire du Trésor, il a sans doute anticipé que le gouvernement américain ne le soutiendrait pas. Et donc ce qu'il a fait, c'est que la semaine dernière, il est allé se vendre. Il est allé voir Bank of America, qui est une grande banque universelle.
De détail, beaucoup d'Américains ont leur compte à la Bank of America.
Qui a beaucoup de liquidités, etc. Il est allé voir la Bank of America et il a dit « je suis prêt à me vendre à vous et je suis prêt à me vendre à vous à un bon prix ». Donc il a anticipé sur la difficulté, il a anticipé sur la défiance des marchés et il s'est vendu, et il s'est très bien vendu, il s'est vendu 50 milliards de dollars. A posteriori, on peut considérer qu'il a fait même une très bonne affaire parce que l'entreprise vaut beaucoup moins depuis que Lehman s'est effondré.
Le cours de la finance, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants, propos d'Alan Greenspan.
Ce qui se passe actuellement, en tout cas, c'est que le gouvernement américain accepte une consolidation forcée du système financier. Et puis, les derniers propos de Paulson sont intéressants. Ce qu'il dit, c'est que cette crise va durer longtemps. Elle va durer d'abord dans son volet immobilier, pour que les différentes transactions financières sur les différents titres assis sur des crédits immobiliers se dénouent. C'est ce qu'on appelle le deleveraging, c'est-à-dire on est en train de démanteler toute l'architecture financière qui avait été conçue, en gros, pour rendre le crédit illimité. Donc on est en train de démonter cela. Et plus généralement, la formidable croissance de l'industrie financière à laquelle on a assisté au cours des 20 dernières années, avec le développement de toute une série de produits financiers sophistiqués, les fameux produits dérivés, etc. Cette fantastique industrie financière dont le poids, par exemple, dans les bénéfices des 500 premières entreprises, a quadruplé en 20 ans. Donc cette immense industrie financière va quand même reculer. C'est-à-dire qu'on est en train, on va, dans les années qui viennent, et ça prendra peut-être 10 ans, on va démonter progressivement un certain nombre des superstructures financières qu'on a bâties au cours des 20 dernières années. Finalement, et ça va prendre du temps. Donc.
Finalement, Eli Cohen, l'image qu'on pouvait entendre dans la revue de presse internationale, l'image du guépard, ceux qui ont vu le film de Visconti l'ont tous en tête, l'adieu à une époque, la fin d'un monde, c'est
absolument
une image qui correspond à ce qui est en train de se dérouler.
Tout à fait, je suis persuadé que l'enjeu majeur de ce que nous vivons actuellement, c'est le démantèlement d'une superstructure financière, démantèlement partiel bien entendu, d'une superstructure financière qu'on a bâtie au cours des 20 dernières années et qui a permis, je dirais, l'illusion du crédit illimité, l'illusion de la monétisation des actifs, c'est-à-dire vos actifs, fussent-ils immobiles, sont immédiatement liquides, et l'illusion de la protection financière tous azimuts. On a cru en gros qu'on pouvait défier les lois de la pesanteur en mobilisant des mathématiques financières, de l'innovation, des dispositifs financiers créatifs. Et c'est tout ça qui est en crise, et c'est pour ça que c'est une crise d'une exceptionnelle sévérité. Mais de grâce, ne me parlez pas de la crise de 29.
J'allais vous poser la question très justement parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, on cherche forcément des références dans l'histoire, on cherche forcément des modèles, des situations qui ont déjà eu lieu. Et inévitablement, depuis le début de la crise des subprimes, inévitablement, dès qu'il y a la faillite d'une grande institution, on évoque 29.
Alors, trois chiffres pour que vous soyez édifiés sur 29. Premier chiffre, le nombre des chômeurs aux États-Unis après la crise de 29, c'est-à-dire entre 29 et 33, a été multiplié par 10. On est passé d'1,5 million de chômeurs à 15 millions de chômeurs. Deuxième chiffre, la production industrielle entre 29 et 33 a baissé de 50%. Troisième chiffre, le PIB, c'est-à-dire la richesse produite par les Américains entre 29 et 33 a baissé de 30%. De quoi parle-t-on en France actuellement ? On est en France et aux États-Unis.
Oui.
Aux États-Unis, la catastrophe, c'est que les États-Unis vont croître cette année, croître, je vous dis bien, croître de 1,8%. Et le drame national que nous vivons en France, c'est que le PIB a baissé un trimestre de 0,3%. Alors, vous pouvez me dire que le pire est à venir. Le pire est toujours possible. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit ces ordres de grandeur. Pourquoi ? Parce que précisément, nous avons appris de 29. Et qu'est-ce que nous avons appris de 29 ? C'est que lorsqu'il y a des risques de faillite systémique, c'est-à-dire lorsque on a ces risques d'effondrement de dominos financiers, à terme, il y a le crédit qui gèle, qui se paralyse, et donc l'activité économique qui se bloque, et donc la récession et la récession grave qui est au bout. Tout ce que je viens de vous dire, et notamment sur l'intervention de la Banque centrale américaine et du Trésor américain pour sauver Fannie Mae et Freddie Mac avec leurs 5 400 milliards de dollars, vous montre bien que face aux enjeux financiers majeurs, Banque centrale et gouvernement interviennent pour empêcher justement ce type d'enchaînement. Et jusqu'à présent, nous y parvenons.
Autrement dit, les outils en matière de politique fiscale, de matière de politique monétaire existent pour
Absolument.
Éviter la dépression.
Tout à fait. Et c'est la grande innovation keynésienne. Si vous voulez, on a appris après la crise de 29 qu'on ne pouvait pas laisser les marchés financiers s'ajuster, que l'État et la Banque centrale sont des garants en dernier ressort de l'activité économique. On parle de prêteurs en dernier ressort. Et ce qu'on voit bien, c'est cette activité de prêteurs en dernier ressort qui est à l'œuvre.
Mais du coup, l'économie réelle n'est pas touchée. Il n'y a pas de conséquences directes à craindre de la faillite de Lehman Brothers, par exemple, et de ces troubles sur les places financières, sur ce qui se produit réellement.
Mais bien sûr qu'il y a des effets. À partir du moment où les banques vivent dans un stress financier permanent, qu'est-ce qu'elles font ? Elles réduisent leur crédit ou elles augmentent les taux. Et ça, ça a bien entendu des effets sur l'économie réelle. C'est pour ça que ce qui s'est passé sur Lehman...
Très simplement, la conséquence, ou en tout cas l'un des risques qui menace aujourd'hui gens qui veulent s'endetter...
C'est le ralentissement du crédit.
C'est que s'endetter, ça coûtera plus cher, sera plus difficile d'obtenir un
Exactement.
Crédit auprès d'une banque.
Exactement. Exactement. À partir du moment où le crédit est plus cher et plus difficile à obtenir, les projets que vous pouviez avoir, c'est-à-dire acheter un logement, investir, développer une activité, etc., vous ne les réalisez pas. Et ça, ça a bien un impact sur l'économie réelle.
Comment expliquer dans ces cas-là que la Fed, la Réserve fédérale américaine, devrait annoncer, la rumeur court, une baisse de ses taux ? Autrement dit, pouvoir permettre aux consommateurs américains de continuer à recourir au crédit et pas la Banque centrale européenne.
Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les banques centrales ont à arbitrer en permanence entre risque d'inflation et risque de récession. Et la Banque centrale américaine, jusqu'à présent, avait clairement arbitré dans le sens d'éviter la récession. Mais malgré tout, ces derniers temps, elle se disait que l'inflation était repartie et qu'il fallait peut-être qu'elle modifie l'orientation de sa politique monétaire. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas se faire et que la Banque centrale va probablement baisser ses taux, c'est-à-dire injecter de la liquidité pour stimuler l'activité économique et donc inciter les ménages à nouveau à s'endetter et les entreprises également à s'endetter pour stimuler l'activité économique. La Banque centrale européenne était dans une autre logique, comme vous savez, qui était de lutter d'abord et avant tout et presque exclusivement contre l'inflation. D'où les hausses de taux, la hausse de taux récente de 25 points de base et d'où les hausses de taux qu'on craignait à la suite. Je crois que la Banque centrale européenne ne pourra pas non seulement augmenter ses taux, mais même maintenir les taux au niveau actuel si les États-Unis baissent leurs taux. Et donc mon anticipation, c'est que la Banque centrale européenne va avoir à reconsidérer la balance des risques à nouveau entre l'inflation et la récession, le risque de récession devient beaucoup plus important que le risque d'inflation et je suis certain que la Banque centrale en tiendra compte.
Quelles sont les prochaines étapes très difficiles de prévoir dans un secteur aussi mouvant et on voit la difficulté à anticiper sur les marchés financiers, mais d'après vous, quelles sont les prochaines étapes après la faillite de Lehman Brothers?
La prochaine étape, elle est déjà là, sous mes yeux, c'est le risque de faillite d'AIG, qui est l'une des plus grandes compagnies d'assurance américaine et qui notamment a développé au cours des dernières années ce qu'on appelle d'un terme technique les CDS, c'est-à-dire les garanties de risque de défaut, qu'elle a formidablement développé, notamment sur le marché obligataire. Et donc AIG aujourd'hui est soumis à une pression formidable, c'est-à-dire que tous ceux à qui elle a vendu de la protection veulent retirer leur bille. Et donc AIG a un besoin urgent au moment où je vous parle de 40 milliards de dollars. Et AIG cherche désespérément à trouver ses fonds pour éviter d'être elle-même en difficulté.
Pourquoi est-ce que les assureurs seraient menacés? On comprend que les banques le soient.
Mais parce que tout simplement, les assureurs se sont mis à faire des métiers de banquiers. C'est ça la grande transformation de la finance. Lorsque vous vendez de la protection financière, vous vendez de la protection, mais vous vendez de la protection financière. C'est-à-dire, vous êtes à la fois un assureur et un banquier. Et AIG, qui a eu par le passé des profits exceptionnels, parce qu'elle a beaucoup innové dans ses techniques de protection financière, est aujourd'hui dans l'œil du cyclone.
On se retrouve dans un instant, Eli Cohen. On continue à explorer la crise financière. 21 minutes, suite des matins de France Culture. Notre invité jusqu'à 9h est l'économiste Eli Cohen. Vous nous aidez à comprendre ce matin les conséquences de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. On a vu l'inquiétude sur les différentes places financières mondiales. Comment entendez-vous les propos très rassurants de la ministre de l'économie, Christine Lagarde, Eli Cohen?
Je crois que nos gouvernants sont plus dans le commentaire que dans l'action. Il est très frappant de constater combien, après chaque vague de crise financière, puisqu'on est maintenant à la troisième vague de cette crise, on voit des gouvernants qui viennent nous expliquer que la France ne sera pas atteinte, que la France maintiendra sa performance et que d'ailleurs la France fait mieux que les voisins, ce qui est inexact. Vous vous souvenez par exemple qu'au premier trimestre, on avait eu la divine surprise de chiffres économiques qui avaient été bons. Et le gouvernement en avait rapidement tiré la conclusion que ces bons chiffres étaient la manifestation de l'excellence de la politique qui avait été menée depuis l'arrivée du nouveau président et en même temps de la solidité des institutions financières qui résistaient à tous les chocs. Et puis le trimestre d'après, la croissance est soudain devenue négative. On a fait le moins 0,3 au deuxième trimestre et l'explication, c'est que bien entendu, la crise financière frappait à nos portes. Non, ce qui me frappe, c'est que non seulement le gouvernement français est dans le commentaire, ce qui ne serait pas très gênant à la limite compte tenu de l'ampleur des enjeux, mais que l'Europe elle-même, les 27 sont aussi dans le commentaire. Moi, j'ai été particulièrement affligé de constater qu'au fameux sommet économique de Nice
réunissait les ministres de l'économie et des finances des 27.
Absolument, qui devait définir une forme de réponse de l'Union européenne à la crise financière. Et on a vu que c'était une crise financière très sérieuse. Eh bien, les 27 ont déclaré simplement qu'ils allaient se préoccuper de l'enregistrement des agences de notation et qu'ils allaient demander à la Banque européenne d'investissement de mettre au point un financement spécifique pour les PME. Quand on pense à ce que sont les risques systémiques de la crise actuelle, quand on pense en particulier que la crise américaine a révélé l'importance d'un État appuyer sur des contribuables pour régler des crises. C'est ça le grand enseignement. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas dans une crise majeure aujourd'hui aux États-Unis du type de 29? Bien, c'est que le gouvernement américain mobilise l'immense réservoir du contribuable américain pour venir au secours des institutions financières en difficulté. Qu'est-ce qui peut se passer en Europe si demain une grande institution financière présente dans plusieurs pays venait à faire défaut? On n'a pas de moyen de régler le problème parce que les règles actuelles, c'est l'autorité de régulation du pays dans lequel la banque a son siège social qui intervient. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si Unicredito, par exemple, fait faillite en Italie, comme elle est très implantée dans les pays d'Europe centrale et orientale, ce serait la Banque centrale italienne qui viendrait au secours de la Pologne, de la Hongrie, etc. Ce n'est pas envisageable. Donc ce qu'on est en train de faire au niveau européen aujourd'hui, c'est d'organiser ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau. Et donc on est en train de mettre en place des structures de coordination des régulateurs nationaux pour se partager la charge éventuelle d'une défection si elle venait à intervenir dans le paysage européen. Voyez bien que le manque d'un État et le manque d'une capacité fiscale au niveau européen nous fragilise considérablement. Et du coup, l'Europe est spectatrice dans cet immense bouleversement financier mondial.
Mais c'est un aveuglement ou c'est de l'impuissance?
C'est de l'impuissance institutionnelle. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on a créé la Banque Centrale Européenne et qu'on lui a confié le pouvoir en matière de politique monétaire, on a refusé de confier à la Banque Centrale Européenne le pouvoir de supervision financière. Et on a laissé le pouvoir de supervision aux autorités nationales de supervision. Alors le motif à l'époque était tout à fait légitime. Ça consistait à dire le pouvoir de supervision peut engager le contribuable de chaque pays. Or, les matières fiscales sont du ressort de chacun des pays. Mais on voit bien que face à une crise financière majeure, cette solution d'une fédération de 27 régulateurs nationaux n'est pas à la hauteur du problème.
Mais alors à quoi ça sert un ministre de l'économie en France, un ministre de l'économie national, Élie Cohen ?
Eh bien, le ministre de l'économie, dans la crise actuelle, se contente d'apprécier les marges de manœuvre nationales qu'il a en matière budgétaire pour voir éventuellement s'il peut agir pour stimuler l'activité. Et vous savez que ce point de vue-là, les situations sont très contrastées en Europe. Vous savez par exemple que l'Espagne, ayant accumulé des excédents budgétaires, fait aujourd'hui de la relance budgétaire en distribuant des chèques pour que les ménages espagnols et que les consommateurs espagnols continuent à consommer. Vous savez qu'en Allemagne, on est en équilibre budgétaire et donc même s'il n'y a pas de projet de relance, ça ferait sens compte tenu du ralentissement très marqué de l'activité économique. Donc, il reste ce pouvoir budgétaire aux différents États, mais ce pouvoir budgétaire est encadré, je viens de le dire. Et puis à côté de ce pouvoir budgétaire, il y a ce qui fait maintenant l'ordinaire de l'action des gouvernants en matière économique, c'est la réforme structurelle. Au fond, c'est comment faire en sorte que le pays soit équipé pour connaître des plus hauts niveaux de croissance et pour être plus résistant en phase récessive.
L'objectif de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, on s'en souvient, c'était de chercher le point de croissance qui manque. Cet objectif-là, aujourd'hui, il est complètement oublié. Il est passé à la trappe. La priorité, elle est ailleurs.
Ah oui, je veux dire, ce qu'on appelle le taux de croissance potentiel, c'est-à-dire en gros ce qui se passe quand un pays fonctionne normalement sans accident conjoncturel majeur, le taux de croissance potentiel d'un pays comme la France, c'est 2%. Bien. Avec 2%, on va au-devant de difficultés majeures dans l'avenir parce qu'avec 2% de croissance, on n'est pas capable d'assurer la politique de redistribution française qui est très généreuse, notamment en matière de retraite, de santé, etc. D'où l'idée que si on veut à la fois assurer des gains de pouvoir d'achat pour les ménages et assurer les systèmes de protection sociale, il nous faut viser un taux de croissance de 3%. Ce qu'on va faire cette année, c'est 1%. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est probablement aussi 1%. Donc, on est très loin du compte.
Et donc, la question, c'est le modèle social français peut-il résister ?
Si le ralentissement économique n'est que de 1 ou 2 ans, bien entendu, le modèle social français pourra résister. Par contre, si on s'installe durablement en dessous de 2%, alors oui, il y aura des problèmes qui se poseront à l'horizon 2010-2012. Et d'ailleurs, on le voit lorsqu'on fait des projections, par exemple, des dépenses de santé. La projection des dépenses de santé avec le vieillissement fait qu'en 2020, il faudrait prévoir 4 à 5 points de PIB supplémentaires consacrés à la santé. Et très clairement, on ne peut pas le faire dans le cadre actuel, sauf à convaincre les Français qu'il faut qu'ils consacrent une part grandissante de leurs revenus à la santé, parce qu'après tout, des gains d'espérance de vie valent bien qu'on investisse davantage en dépenses de santé. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à opérer ce basculement, tant qu'on considérera la dépense sociale et notamment la dépense de santé comme une dépense, eh bien, on considérera comme une catastrophe la progression des dépenses de santé, parce que, ultimement, la dépense de santé est très très largement socialisée en France.
Revenons aux États-Unis, Élie Cohen, faillite de la banque Lehman Brothers, risque de faillite pour une très très vénérable et vieille institution, c'est General Motors. General Motors, le constructeur automobile américain qui fête son centenaire aujourd'hui, qui était le premier constructeur américain au monde, depuis de très très nombreuses années. Aujourd'hui, il est menacé de faillite. Comment expliquer qu'une entreprise pareille puisse se retrouver dans une situation au bord du gouffre ?
C'est la conjonction de 3 phénomènes parfaitement identifiés depuis très longtemps. Le premier phénomène, c'est que General Motors a été incapable d'anticiper sur les évolutions du marché. En gros, quand il investissait dans des 4x4, il fallait en fait investir dans des véhicules économes en énergie. Et donc, il a une gamme qui est aujourd'hui totalement inadaptée. Deuxième explication, comme vous le savez, General Motors est une vieille institution sociale aux États-Unis et c'est General Motors qui paye l'assurance de ses salariés notamment les assurances santé. Il faut savoir que le coût d'assurance santé pour General Motors est le poste de dépense le plus important dans la production d'un véhicule. C'est là où vous voyez quand même les bénéfices d'un système social comme le français, où la protection sociale ne repose pas exclusivement sur les entreprises et où la protection des individus ne dépend pas de l'entreprise individuelle dans laquelle ils travaillent. Oui. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Et puis le troisième facteur, c'est la concurrence et la compétition internationale. Et il faut savoir que des usines japonaises, coréennes ou allemandes installées aux États-Unis sont maintenant particulièrement productives et particulièrement compétitives parce qu'elles ne sont pas obligées justement d'accorder ces assurances maladie et qu'elles sont dans des États qui sont désyndiqués. Et donc, ces entreprises étrangères implantées aux États-Unis ont paradoxalement un avantage compétitif par rapport aux entreprises américaines installées aux États-Unis. Et c'est la conjonction de ces trois phénomènes qui fait la crise de General Motors.
À tout de suite, Eli Cohen. Marc Kravetz nous a rejoint. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Ali, bonjour à tous.
Caroline Eliachef et Olivier Duhamel sont à mes côtés pour vous interroger, Eli Cohen, et on va donc discuter de la crise financière. Question, est-ce que c'est le capitalisme qui est en crise, comme on peut l'entendre dans un certain nombre de commentaires, et particulièrement de commentaires politiques venus de la gauche en France ?
Ce qui est en crise très clairement, c'est une variété particulière de capitalisme qui était devenue hégémonique, c'est-à-dire la variété anglo-américaine qui était basée sur la prééminence des marchés financiers. Il faut bien comprendre que nous avions, après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs variétés de capitalisme. Il y avait ce qu'on appelait le capitalisme rhénan, qui était un capitalisme très fortement intermédié, dans lequel les banques jouaient un rôle central, et notamment les banques avaient des relations institutionnelles avec les grandes entreprises industrielles. Il y avait une longue durée dans la relation entre les banques et l'industrie. On parlait de capital patient. C'était également un capitalisme qui était régulé. Le rôle de l'État était important dans l'organisation économique et c'était également un capitalisme dans lequel les partenaires sociaux jouaient un rôle important et il y avait toute la pratique de la négociation sociale, du compromis social. On parlait même, dans le cas de l'Allemagne, d'un modèle néo-corporatiste pour signaler l'importance des syndicats dans l'élaboration du compromis politique. Il y avait le capitalisme à la française, le capitalisme colbertiste, où là, non seulement l'État jouait un rôle important dans la régulation économique, mais où l'État était directement un producteur à travers la nationalisation de pans entiers de l'économie, où il y avait la planification indicative, où les syndicats étaient institutionnalisés et participaient dans différentes instances. Et puis, il s'est passé que progressivement, le capitalisme américain l'a emporté. Or, le capitalisme américain a des traits radicalement différents de ceux que je viens de présenter. Premier trait, la banque ne joue pas le rôle central dans l'organisation économique. Ce sont les marchés financiers qui jouent ce rôle central. Donc, on passe d'un capitalisme intermédié à un capitalisme désintermédié. Deuxième élément dans le capitalisme américain, ce qui est important, le rôle essentiel de l'entreprise, c'est, comme on dit, de maximiser la shareholder value, c'est-à-dire de maximiser le retour pour l'actionnaire. Alors que dans la conception française, l'entreprise doit chercher un équilibre entre les actionnaires, les clients et les salariés. Là, c'est l'opposition aussi entre ce qu'on appelle le shareholder capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme d'actionnaire, et un capitalisme de stakeholder, c'est-à-dire de porteur d'enjeux. Deuxième différence majeure. Et puis, troisième différence majeure, au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont procédé à une déréglementation systématique dans nombre de secteurs d'activité. Je m'explique. Le secteur financier aux États-Unis, on ne le sait pas assez, était très fortement régulé et très fortement organisé après la crise de 1929. Mm-hmm. Il y avait notamment ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, qui faisait par exemple qu'une banque de dépôt ne pouvait pas être présente dans plus de deux États, une banque de dépôt ne pouvait pas faire de la banque d'affaires, une banque de dépôt ne pouvait pas faire du brokerage, enfin du courtage. Et donc, il y avait une segmentation et une spécialisation qui faisait qu'on limitait les risques, parce que les Américains avaient été traumatisés par la crise de 1929. Or, au cours des 20 dernières années, on a démantelé progressivement toutes ces protections et on est allé donc vers un modèle de marché financier intégré et de marché financier qui, en plus, ont inventé toute une série de techniques pour rendre, comme je le disais tout à l'heure, le crédit illimité, la monétisation des actifs sans limite et la protection financière sans limite. Et c'est ce modèle-là qui est aujourd'hui en crise majeure. Simplement, le problème, c'est que ce modèle qui avait été élaboré aux États-Unis, nous l'avons progressivement importé en Europe et nous l'avons également importé au Japon et ailleurs. C'est-à-dire que ce capitalisme qui n'était qu'une variété parmi d'autres est devenu la variété hégémonique au cours des 20 dernières années. Et c'est pour ça que la crise du capitalisme américain actuel, c'est la crise de l'ensemble de l'économie mondiale.
Est-ce qu'on peut imaginer une régulation à l'échelle internationale ? On se souvient que quand Dominique Strauss-Kahn a été nommé à la tête du FMI, il y est allé en disant « voilà, on va changer les choses, on va mettre en place de nouvelles institutions qui permettront non seulement de mieux réguler ce capitalisme que vous décrivez, Eli Cohen, et éventuellement le rendre plus soucieux de la réduction des inégalités, d'éviter de trop grands écarts de richesse, en tout cas d'être soucieux des plus démunis sur la planète. »
Alors là aussi, c'est tout le problème de la période actuelle, c'est que les institutions de régulation mondiale qu'on a créées après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qui était chargé d'assurer la liberté de la convertibilité et donc la relation fixe entre les différentes monnaies mondiales, l'édifice de Bretton Woods a sauté en éclats parce que d'une part, la stabilité monétaire n'a plus pu être garantie à partir de 71, c'est-à-dire quand on est sorti des régimes de convertibilité hors du dollar et quand on est sorti plus généralement des systèmes de convertibilité à taux fixe et qu'on est rentré dans des taux variables. Et d'un autre côté, la Banque mondiale a essayé de développer toute une série de politiques d'aide aux pays les moins favorisés. Mais ce à quoi on a assisté au cours des 10 dernières années, c'est une perte de vocation à la fois du FMI et de la Banque mondiale. C'est-à-dire que le FMI s'est mis à faire le travail de la Banque mondiale avec les plans de restructuration des pays en difficulté. La Banque mondiale a commencé à élargir sa perspective. Et au fond, tout ce que je viens de vous expliquer sur le développement de la crise financière, eh bien, n'a absolument pas concerné le Fonds monétaire international, qui n'a rien eu à dire et rien eu à faire. Et là, c'est une perte de mission et une perte de vocation du Fonds monétaire international. Et ce que dit Dominique Strauss-Kahn, au fond, c'est qu'il va falloir inventer une nouvelle mission pour le Fonds monétaire international. Vous savez que le Fonds monétaire international vivait des plans de restructuration qu'il faisait des pays en difficulté. Or, les pays en difficulté aujourd'hui n'ont plus besoin du Fonds monétaire international. Oui. Ils font appel à la Chine, ils font appel à la Russie. Donc, ils n'ont plus besoin. Regardez, l'Afrique, par exemple, ne se tourne plus du tout vers le Fonds monétaire international. L'Amérique latine non plus. Donc, le Fonds monétaire international a perdu sa vocation. Il devrait se donner une vocation dans la prévention et le traitement des crises financières. Simplement, en attendant, d'autres institutions sont nées. Vous savez qu'il y a le groupe de Bâle des gouverneurs de banques centrales qui est compétent en matière de régulation financière. Ce groupe de Bâle s'est donné une mission en matière de stabilité financière. Et donc le forum de stabilité financière qui lie le groupe de Bâle au FMI a pris le devant aujourd'hui en matière de régulation financière internationale et en matière de développement de propositions pour assurer la stabilité financière internationale. Et donc le FMI ne sait plus où il habite.
Question de Caroline Eliachef, puis Olivier Duhamel. Caroline.
Oui, quand on écoute des personnes comme vous et d'autres économistes, moi qui suis de l'extérieur, qui n'ai pas de compétences particulières, d'abord j'ai l'impression de vous comprendre, donc c'est très agréable. Et j'ai surtout l'impression, souvent, d'entendre des gens particulièrement intelligents, à la fois sur l'analyse de la situation et même éventuellement la prospective. Et donc, je suis surprise qu'au finish, on arrive à des situations que tout le monde a prévues, mais que personne n'a pu empêcher, d'une part, et d'autre part, à des mouvements qui sont totalement incontrôlés et qui... alors. Par rapport à la crise de 1929, vous expliquez très bien que ça n'est pas la même chose, que les dimensions ne sont pas les mêmes, etc. Parce qu'un certain nombre de choses ont été mises en place. Mais sur la réaction des personnes, on a l'impression vraiment que rien n'a bougé, que c'est exactement les mêmes. On parle de panique, enfin, on parle en termes de psychologie de base, comme si ça n'entrait tellement pas dans vos modes de réflexion que finalement, c'est ça qui vous pète à la gueule, si j'ai envie de dire.
Eli Cohen.
Non, mais écoutez, l'explication est en fait assez simple. Je vous l'ai dit, depuis 20 ans, il y a un projet délibéré aux États-Unis de déréglementation et de libéralisation des marchés. C'est-à-dire, on a ôté, si vous voulez, progressivement les bandelettes qui permettaient la maîtrise de ces enfants particulièrement turbulents que sont les marchés. Et l'argument qui a été utilisé aux États-Unis, c'est de dire, d'une part, que les marchés sont spontanément efficaces, c'est-à-dire que lorsqu'un déséquilibre intervient, les marchés retrouvent une situation d'équilibre. Ça, si vous voulez, c'est un choix théorique et idéologique. Et puis, on a également avancé l'idée que, de toute manière, les matières financières étaient très complexes, et étaient tellement complexes que des régulateurs, que l'État, ne pouvait pas avoir la parfaite connaissance et la parfaite maîtrise. D'où l'idée qui s'est installée au cours des dernières années que seule l'autorégulation par les professionnels était possible. Et là, je vous laisse imaginer la situation. Si vous confiez la régulation des marchés financiers à ceux dont l'activité essentielle et la richesse est indexée sur la prospérité et le développement de ces marchés, et comme on est dans des systèmes très décentralisés où chacun poursuit ses propres stratégies, ses propres besoins et était éventuellement animé de désirs d'enrichissement, de pulsions diverses, de cupidité et autres, si vous êtes dans une situation où vous dites que vous confiez la gestion du système à ces gens-là, eh bien, il ne faut pas être surpris de constater de temps en temps des comportements de traders fous, comme on dit, des comportements de prise de risque excessif, etc. Donc ça, c'est le premier élément. L'idée qui s'est installée, c'est que seule l'autorégulation permettait de contrôler des systèmes d'une difficulté de ce type. Et puis, deuxième élément, en pratique, les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine au cours des 20 dernières années, a dit « je ne peux pas contrôler la formation de bulles ». C'est-à-dire que l'idée que des mécanismes de marché puissent sortir d'un modèle d'équilibre, connaître une instabilité, puis voir des bulles d'actifs se former, eh bien, cette situation-là, c'est notamment Greenspan qui a théorisé ça. Il a théorisé le fait que les banques centrales ne pouvaient pas prévenir les formations des bulles, ne pouvaient pas agir pour l'éclatement ordonné des bulles. Et donc, en fait, la conclusion de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au cours des 20 dernières années, de propos délibérés, on a libéralisé, déréglementé, organisé le retrait de l'État et de la Banque centrale dans le contrôle de ces mouvements, parce qu'on a fait le pari que les marchés pouvaient eux-mêmes se gérer, que la régulation pouvait être le fait des professionnels, et puis parce que surtout, les bénéfices tirés de la déréglementation étaient considérés comme bien supérieurs au coût de cette déréglementation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, j'ai oublié de vous le dire depuis le début, c'est que derrière tout ça, il y a une formidable expansion du crédit. Derrière cette formidable expansion du crédit, il y a la croissance économique. Derrière ça, il y a le fait, par exemple, qu'aux États-Unis, 3 ménages sur 4 sont propriétaires de leur logement. Il ne faut quand même pas oublier tout cet aspect. Mais enfin, on a décidé de vivre dans un monde de plus en plus risqué, de moins en moins encadré, de plus en plus régulé par les professionnels eux-mêmes.
Olivier Duhamel.
Alors, est-ce que c'est fini ? Est-ce que, devant le caractère plus grave de cette crise, et par exemple toutes les faillites évoquées ces jours derniers et d'autres à venir, ce modèle du capitalisme anglo-saxon financier que vous nous avez fort bien décrit est mort, va être obligé de céder la place avec de nouvelles régulations, etc., etc. Ou est-ce que pas du tout, puisque finalement, c'est pas catastrophique, puisque finalement, évidemment, les gens pleurent parce qu'ils perdent 10%, 15%, 20%, mais ça n'a rien à voir avec être totalement ruiné, sauté par les fenêtres, des millions de chômeurs.
Absolument.
Et que donc, eh ben, y a eu la bulle Internet, y a cette bulle-là, il y a la crise, ça va pas bien, et puis dans 2-3 ans, terminato, c'est repris, c'est reparti pour 5, 10, 15% jusqu'à la prochaine et que donc rien de changé sous le soleil.
Bah, c'est une très bonne question parce que face à la crise actuelle, vous avez effectivement deux attitudes. Un excellent économiste qui s'appelle Schiller dit au fond que c'est une crise de maturité du système financier, qu'au fond, les instruments qu'on avait mobilisés étaient des instruments assez frustes, notamment les instruments de modélisation financière et de calcul de risque étaient en fait des outils assez frustes, qu'on va avoir maintenant des modèles encore plus sophistiqués et plus développés. Et puis surtout, Schiller développe une autre thèse qui est que la crise actuelle naît de l'insuffisante protection des ménages contre les risques financiers. Je m'explique. Il dit « comment expliquer que des ménages fassent l'investissement le plus important de leur vie en achetant un logement, par exemple, et ne s'assurent pas contre les risques liés à ce crédit-là, et qui ne s'assurent pas eux-mêmes contre les risques biographiques, c'est-à-dire les risques qui peuvent survenir, les risques de divorce, etc.
Et comment ça s'explique, justement ?
Alors, donc, bah, il dit, on est
maintenant, à... Maintenant, ils vont le faire, il dit.
Voilà, ce que propose Schiller, c'est de développer toute une nouvelle instrumentation financière, avec notamment des produits dérivés qui seraient commercialisés pour tous les ménages, pour que ceux-ci puissent se couvrir. Non, je donne juste cet exemple pour vous montrer que même dans des situations de ce type, il y a toute une école de pensée qui consiste à dire, eh bien, il faut au contraire raffiner et développer les modèles et les instruments financiers que nous avons conçus jusqu'à présent pour éviter la crise prochaine.
Alors, on nous disait qu'ils étaient aujourd'hui justement trop sophistiqués, donc trop opaques, et que même les traders, mathématiciens, géniaux qui travaillent à Londres ou à New York ne comprennent
plus ce qu'ils
produisent comme instrument.
L'idée, c'est qu'il faut démocratiser ces outils. Voilà, c'est la thèse de Schiller, il faut démocratiser ces outils.
Et la thèse contraire ?
Alors la thèse contraire dit que nous sommes arrivés aux limites de l'innovation financière en matière de crédit, puisqu'en gros, on a totalement déconnecté le crédit de ce qu'on appelle la base monétaire, c'est-à-dire couramment, ce que vous avez appris à l'école, les dépôts qui permettent de faire des crédits, etc. etc. Et donc, on ne peut pas garder ce système-là. Il a montré ses limites. Et là, nous étions au bord du précipice. La crise prochaine, ça sera la crise terminale du système. Et donc, ces gens-là disent qu'il faut en fait démonter une partie de cette infrastructure financière qu'on a montée au cours des 20 dernières années. Il faut faire ce qu'on appelle du deleveraging. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, c'est-à-dire
déconstruction,
faire de la déconstruction financière et en particulier diminuer considérablement la part de la dette dans le financement du crédit. Vous avez vu que les niveaux d'endettement des ménages ont littéralement explosé aux États-Unis, en Angleterre en particulier. Donc il faut réduire les niveaux d'endettement. Il faut repricer le risque, c'est-à-dire trouver une meilleure appréciation du prix du risque et du coût du risque et transférer ce coût du risque dans les produits financiers qui sont vendus. Et puis surtout, il va falloir rendre public toute une série d'opérations qui aujourd'hui sont des opérations de gré à gré. Le danger majeur de la crise actuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les dérivés de crédit. Or, les dérivés de crédit, ce sont des opérations de gré à gré entre institutions financières. Et donc, il n'y a aucune publicité, aucune connaissance. C'est pour ça que les banques découvrent au fur et à mesure leur degré d'exposition. C'est quand on voit la difficulté qui frappe une banque qu'on évalue son risque en fonction de la difficulté de la banque.
Et c'est qu'aujourd'hui, en ouvrant les livres de compte chez Lehman Brothers, on peut découvrir les titres pourris qui n'apparaissaient
exactement.
Pas. Et
c'est pas chez Lehman, c'est chez tous les contreparties de Lehman qu'on est en train de découvrir l'ampleur des engagements. Et c'est pour ça qu'hier après-midi, vous avez vu les différentes banques françaises vous dire « Nous sommes exposés à hauteur de, pour l'un, 500 millions d'euros, pour l'autre, 200 millions d'euros. » Et donc, là, il y a les risques potentiel de pertes liées à cette relation de contrepartie avec Lehman.
Oui. On va plutôt vers la thèse régulatrice, on va plutôt vers la deuxième thèse. Je veux dire, chez les gouvernants et tout, on a l'impression qu'on va plutôt vers ça, surtout
aux
États-Unis. Aux
États-Unis, Paulson, qui est le patron du Trésor américain, a tout fait jusqu'à présent pour éviter d'aller dans cette direction. Ceci étant, je pense que la Banque centrale américaine en particulier va aller plus loin dans la régulation. Et au moment où je vous parle, ce qui est tout à fait exceptionnel, il y a des inspecteurs de la Banque centrale américaine dans chacune des banques pour surveiller ces opérations de gré à gré dont je vous parlais tout à l'heure.
Un mot avant de donner la parole à Marc Kravetz. On a vu que le patron de Lehman Brothers avait refusé de vendre sa banque récemment à une société coréenne. Il a refusé également de la vendre à des fonds souverains du Golfe. Ceux qui sont aujourd'hui en crise, ce sont essentiellement de grandes institutions financières qui sont américaines, qui sont britanniques. Est-ce que, tout simplement, le centre de gravité de la finance mondiale n'est pas en train de se déplacer, d'aller ailleurs, en Asie du Sud-Est, éventuellement d'autres places comme Dubaï ?
Deux choses. D'abord, les fameux fonds souverains dont on parle beaucoup ont beaucoup investi dans ces banques en difficulté. Le premier résultat, c'est qu'ils perdent énormément d'argent aujourd'hui. Et le deuxième résultat, c'est qu'ils ne veulent pas remettre de l'argent dans ces banques en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ces sauvetages plus ou moins organisés par la puissance publique américaine. Et c'est la raison pour laquelle l'opération Barclays Lehman n'a pas pu se faire. Au fond, le gouvernement américain ne voulait pas garantir par de l'argent du contribuable américain le rachat de Lehman par Barclays. Et parce qu'il se trouve que Barclays est une banque anglaise.
Bah on comprend quand même, ils ne peuvent pas se gaver pendant des années. Et puis dès qu'il y a de la perte, qu'on vienne tout nationaliser, socialiser et payer à leur place.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut...
Il faut le faire pour éviter la crise, on ne peut pas le faire pour tout le monde.
Mais le problème, c'est qu'il faut arbitrer entre deux risques. Effectivement, ce risque d'engagement de l'argent du contribuable et le risque systémique. Parce que, si vous voulez, on a quand même plongé dans l'inconnu hier avec la faillite de Lehman et avec les difficultés d'AIG.
Marc Kravetz.
À l'origine de la crise, vous en parliez dans une autre partie de la conversation, mais je voudrais quand même qu'on y revienne un peu. Dans ces fameux prêts immobiliers ou prêts tout court, je crois que j'ai appris ça. On apprend des tas de choses en lisant les journaux en ce moment, surtout quand on n'y connaît rien. Les titres ninja, on appelle ça, ceux qui consistent à prêter de l'argent à des gens qui n'ont ni revenus, ni foyer, ni c'est nos jobs, nos assets, ni actifs.
No income.
Donc c'est tout de même formidable. Et alors, est-ce que c'est plus anecdotique, c'est ce dont on a le plus parlé, ou est-ce que réellement il y a des comportements, là qui en l'occurrence sont parfaitement délinquants, dans la conduite des banques, des courtiers, des offreurs d'emprunt.
Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses importantes à savoir. C'est que l'un des héritages du New Deal et de Roosevelt, c'est l'idée qu'il fallait aider les ménages américains à devenir propriétaires. Et donc, faire en sorte qu'ils aient un accès particulièrement facilité au crédit immobilier. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a créé ces fonds de refinancement hypothécaire que sont Fannie Mae et Freddie Mac, qui font de la titrisation de crédit immobilier. L'idée, c'est qu'il fallait diffuser au maximum la propriété immobilière. Alors, ces fameux prêts ninja dont vous parlez maintenant, c'est quoi? C'est le fait que des gens qui ne sont pas solvables ont pu accéder à du crédit immobilier en gros, en ne produisant aucun document financier pouvant attester de leur solvabilité. Mais vous pouvez voir cette action de deux manières. Vous pouvez dire d'un côté, eh bien, c'est une forme de politique sociale aux États-Unis, puisque l'accès à la propriété passe par des conditions de crédit particulièrement avantageuses.
Sûr que faire se loger les SDF,
voilà,
c'est
une vous pouvez, idée, et je rappelle que 3/4 des ménages américains sont propriétaires de leur logement, où vous pouvez dire ce sont des banquiers sans scrupules qui ont vendu des crédits à des gens dont ils savaient parfaitement qu'ils n'étaient pas solvables. Mmh. Eh bien, c'est les deux à la fois. Et je vais vous en donner une illustration. Lorsqu'on a voulu réglementer les crédits subprime, qui a protesté? Eh bien, ce sont les mouvements qui défendaient les Hispaniques, les Portoricains, les Noirs, parce qu'ils disaient, mais attendez, c'est l'un des moyens d'accès à la propriété immobilière. Oui, c'est pas si simple.
Mais la perdre aussi.
Oui, non, mais je sais bien. Mais enfin, quand même, au cours des 10 dernières années, vous avez des tas de ménages qui ont pu devenir comme ça propriétaires de leur logement et qui ont sécurisé leur propriété. Ce ne sont que les subprimes de 2006-2007 qui sont en train d'entrer massivement en défaut.
Merci Eli Cohen de nous avoir rendu visite, c'est, comme à chaque fois, beaucoup plus clair. Je vous souhaite une excellente journée, il est 9h-5, on aura évidemment l'occasion de revenir sur ces questions économiques et financières. Nous